Salut à tous, c'est Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique. J'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement qui n'est pas facile. Pour vous occuper un petit peu, on a décidé de sortir un nouvel épisode qui est l'enregistrement d'une conférence donnée au comité para à Scepticisme de Pub en février 2020. Conférence donnée par notre collègue Rémi Gault. Rémi est un postdoctorant en neurosciences à l'UCL. Université catholique de Louvain en Belgique, et il bosse essentiellement sur l'étude de la perception par imagerie, résonance magnétique. Et il est venu nous parler en fait d'une révolution en psychologie en lien avec la crise de la reproductibilité et notamment l'influence des études de parapsychologie dans cette révolution. Des études qui ont poussé les chercheurs à remettre en question certains de leurs protocoles ou de leur manière de faire de la recherche, notamment pour répondre à certaines critiques qui étaient faites envers les études de parapsychologie. Voilà, je vous passe la conférence pour la suite. Bonne écoute et je vous mets aussi les slides sur la page du balado. Donc n'hésitez pas à aller chercher là-bas si ça peut vous aider. Parce qu'il y a certains moments où ça, je pense que ça sera plus facile si vous avez les slides devant vous pour comprendre. Voilà, bonne écoute.
D'abord, pour un petit peu ménager vos attentes sur savoir qu'est-ce qui arrive dans, disons, à peu près l'heure qui vient, de quoi je vais vous parler. Voilà. Alors, ce dont je ne vais pas vraiment vous parler, je vais pas vraiment vous parler de parapsychologie et de psychologie. Bon, c'est un peu gonflé vu que parapsychologie est quand même dans le titre de la présentation. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est que je ne vais pas passer mon temps à prendre une expérience de parapsychologie ou de psychologie et du faire du debunking en règle ou de la démonter en détail pour essayer de trouver toutes les failles. Ce dont je vais plutôt vous parler, en fait, c'est de ce qu'on appelle de métascience, c'est-à-dire le champ de recherche qui étudie les chercheurs eux-mêmes. Donc c'est la science de la science. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, alors d'abord le champ de la métascience, c'est un domaine récent. En fait, ça reprend pas mal de trucs qui existaient déjà en sociologie des sciences. Et pourquoi je prends ça? Pourquoi est-ce que je vais prendre cette approche-là? Parce que j'ai un peu envie de vous donner une vue globale de certains problèmes qui existent en psychologie et qu'on retrouve aussi en parapsychologie. Mais ce que je vais essayer de faire aussi, vu que c'est un petit peu, on est chez les sceptiques, je vais essayer de mettre en avant les points qui, pour moi, me semblent intéressants d'un point de vue sceptique dans cette approche métascientifique. Parce que je fais partie du mouvement sceptique et qu'il y a pas mal de trucs que je vois dont on discute autour de ces sujets-là, et je me disais, ça serait bien un petit peu de les mettre un peu plus en avant. Alors juste au cas où vous ne serez pas au courant ce que c'est que la parapsychologie, quand même, je vous donne une espèce de définition très... On va le faire ça à la louche. Parapsychologie, généralement, ça inclut, on va dire, tout ce qui est précognition, c'est-à-dire la capacité de prédire l'avenir, tout ce qui est télépathie, donc lire dans les pensées de quelqu'un, et par exemple tout ce qui est psychokinèse, c'est-à-dire la capacité d'interagir ou d'agir sur la matière où c'est déjà objet à distance, en contact direct. Dans le grand méchant flou, on va dire, mais c'est un petit peu pour vous donner une idée de ce que c'est que la parapsychologie. Ça ne se limite pas du tout à ça, mais c'est des thèmes qu'on retrouve souvent. Alors, je vais essayer de planter un petit peu le décor, parce que certains des événements dont je vais vous parler remontent aux années 2010. Mais en fait, il y a plein d'éléments qui se passaient avant qui ont amené à ce que ces événements en 2010 aient eu l'impact qu'ils ont eu en psychologie. Alors déjà, on part de loin. On dit des années 1960 à aujourd'hui. Ce qui se passe, ce qu'il y a eu assez fréquemment en psychologie, c'est des espèces de micro-crises, c'est-à-dire des gens qui venaient apporter des critiques d'ordre statistique, méthodologique, même des fois épistémologique, sur la façon dont les chercheurs en psychologie font leur travail, de la façon dont ils font leur recherche. Et ces critiques étaient souvent faites par des psychologues, par des statisticiens ou des philosophes, mais qu'en général, elles étaient, on va dire que ces critiques étaient, on va dire, ignorées. ou en tout cas, ils n'ont pas eu affecté de manière radicale la façon dont les psychologues scientifiques travaillent. Alors maintenant, on passe, enfin, grand bond en avant, on va dans les années 2000, et là, on voit commencer à apparaître certaines publications qui commencent à mettre un petit peu certaines personnes un petit peu mal à l'aise. Par exemple, en 2005, on a un papier très connu de John Ioannidis dont le titre est juste littéralement « La plupart des résultats publiés sont faux ». C'est un article qui parle pas que de psychologie, mais dont les résultats s'appliquent aussi à la recherche en psychologie. En 2008, on a en neuroimagerie, en neurosciences sociales, un article qui dit que pas mal des corrélations qu'on trouve dans ce domaine-là sont largement au-dessus de ce qu'on devrait s'attendre vu les phénomènes qu'on étudie. Donc on commence à surévaluer l'importance de ces effets. Et en 2010-2011, on a aussi des cas de fraude scientifique en psychologie. Le plus connu, c'est celui de Diedrich Stapel, qui est un chercheur en psychologie sociale, enfin qui était un chercheur en psychologie sociale parce qu'il a démissionné depuis, où on s'est avéré qu'il avait fabriqué ses données, qu'il avait falsifié ses données, un petit peu l'horreur totale pour un scientifique qui se respecte. Et on en est maintenant, je crois, à presque près de 60 de ces articles qui ont été retirés. Voilà, donc ça donne un petit peu le cadre. Année 2000-2010, pas mal de choses qui commencent à se passer en psychologie qui mettent les gens un petit peu mal à l'aise, ou en tout cas certaines personnes qui commencent à se poser des questions. Alors, on arrive à la première partie de cette présentation où, on a un certain Daryl Bem qui publie un article en 2011 dans un journal qui s'appelle Journal of Personality and Social Psychology. Alors, quand vous êtes en psychologie et que vous publiez dans ce journal, vous êtes très content. C'est un journal qui est très réputé. Généralement, c'est très bon pour votre carrière d'arriver à publier là-dedans. Daryl Bem est un chercheur en psychologie sociale. Il est professeur émérite à l'université de Cornell. Et il est aussi très connu pour avoir développé des théories en psychologie sociale qui sont importantes, qui sont reconnues. Donc c'est pas, entre guillemets, c'est pas n'importe qui. Et donc il publie cet article qui est donc Feeling the Future, qui est donc pressentir le futur ou sentir le futur, et qui est en fait une collection de 9 expériences de précognition. Alors il y a une expérience de précognition pure dont je vais vous parler un peu par la suite, et après il y a 8 autres expériences où en fait il montre qu'il arrive à inverser le sens de la causalité. C'est-à-dire que de manière assez élégante, on va dire, il a pris des expériences de psychologie cognitive classique avec des effets bien connus. Et il est arrivé à montrer que s'il inversait la cause et l'effet, il arrivait quand même à observer le même phénomène. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra en parler après si vous voulez. Mais grosso modo, un article qui remet en cause notre conception de la causalité elle-même. Alors, je vais vous présenter l'expérience la plus connue, celle dont on entend le plus souvent parler, en tout cas, quand on parle de cet article-là. Alors, les gens qui participaient à cette expérience ont été mis devant un écran d'ordinateur et il y avait plusieurs essais. Et à chaque essai, il y avait 2 rideaux sur l'écran. Et la personne avait pour instruction de cliquer sur un des rideaux et on leur demandait, en fait, cliquez sur le rideau derrière lequel vous pensez qu'il y a une image. La personne clique. Et à ce moment-là seulement, l'ordinateur, de manière aléatoire, décide de quel côté il va mettre l'image. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ça s'est fait seulement une fois que la personne a pris sa décision. C'est pas au début de l'essai que l'image est d'un côté ou de l'autre et que c'est pas prédéterminé avant que la personne ait pris sa décision. Et donc, une fois que la personne a cliqué, les rideaux se lèvent et l'image apparaît. Alors, dans l'expérience, il y avait des images positives, il y avait des images positives, c'est-à-dire au contenu émotionnel positif, ou alors des images négatives et des images neutres. Et il y avait aussi des images érotiques. Alors, je passe les détails, on va en arriver directement au résultat. Donc, on a 9 expériences de précognition, et sur ces 9, il y en a 8 qui donnent des résultats dits positifs. Alors, je suis un petit peu obligé à ce moment-là de faire une pause et vous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par un résultat positif et de faire un petit peu de stats. Je suis désolé, c'est un petit peu nécessaire pour la suite pour comprendre ce qui va se passer. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer ça et pas vous assommer complètement. Qu'est-ce qu'on veut dire par un résultat positif ? C'est un petit peu le moment statistique de la soirée. On est dans un cas où on cherche à tester une hypothèse. Notre hypothèse, c'est que les gens arrivent à prédire l'avenir. Alors, la façon dont on procède en statistique ou en recherche, en fait, c'est qu'on ne va pas tester cette hypothèse-là. On va tester une hypothèse que j'appelle une hypothèse épouvantail, qui, dans ce cas présent, est en fait l'inverse de ce qu'on cherche à tester. Et on dit, donc dans ce cas-là, les gens n'arrivent pas à prédire l'avenir. Et on essaye de tenir le raisonnement suivant. On se dit, bon, en supposant que cette hypothèse épouvantail est vraie, est-ce que les résultats que j'ai obtenus sont possibles ? En fait, avec ce raisonnement, on essaye de s'approcher du syllogisme logique suivant, c'est-à-dire qu'on se dit, si cette hypothèse est vraie, ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir ces résultats-là. J'ai obtenu ces résultats-là, ce qui veut dire que mon hypothèse de départ est fausse. Alors, ça, c'est l'idéal logique vers lequel on tend. En fait, en pratique, on n'y arrive pas parce qu'on est avec des probabilités. Je vous passe les détails, mais donc ce qu'on essaye, ça, c'est ce vers quoi on veut tendre. Et donc, on essaye de quantifier à quel point ces données, les résultats qu'on a sont extrêmes ou à quel point ils sont impossibles, on va dire. Et pour ça, on calcule une probabilité qu'on appelle la valeur de P ou p-value en anglais, et qui définit de manière suivante, on dit en supposant que notre hypothèse épouvantail est vraie, quelle est la possibilité d'observer des résultats au moins aussi extrêmes que ceux que j'ai. Alors, super, on a des résultats et maintenant on a une probabilité qui nous dit à quel point est-ce qu'ils sont impossibles s'il n'y avait pas d'effet. Alors après, il faut faire un choix, c'est-à-dire qu'on dit à quel niveau est-ce que cette probabilité de... On dit, bon, ben effectivement, je décide que ces résultats sont trop extrêmes et que donc, mon hypothèse sur laquelle il n'y a pas d'effet, je dois la rejeter. Ce qu'on appelle un seuil de significativité et en général, on le met à 5%. Donc c'est pour ça, dans des publications scientifiques, vous verrez un P inférieur à 0,05. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce seuil de significativité permet de définir ce qu'on appelle votre tolérance à des résultats qui sont des faux positifs. C'est-à-dire que tout résultat qui passe, dont la probabilité passe ce seuil, est appelé un résultat positif. Mais vous, en plaçant ce seuil, en fait, vous placez une limite sur le taux d'erreur que vous acceptez de faire et le taux de faux positif que vous acceptez d'avoir. C'est-à-dire un faux positif, c'est-à-dire que vous allez dire qu'il y a effectivement un effet alors qu'en fait, il n'y en a pas. Pour vous donner un exemple, quand on dit par exemple que quelqu'un est séropositif, ça veut dire juste qu'on a détecté la présence d'anticorps contre, généralement c'est le VIH. Mais il y a, comme pour tout test, il y a un taux de faux positif et que et cette personne, on peut dire d'une personne qu'elle est séropositive alors qu'en fait elle n'a pas d'anticorps. Et donc, en plaçant ce seuil, on dit que, une autre façon de le dire, que c'est à 5%, si on place ce seuil à 5%, ça veut dire que si on répète l'expérience 100 fois et que l'effet qu'on cherche à mettre en évidence n'existe pas, et bien on va se tromper 5 fois. Donc voilà. Et ça, c'est un truc assez classique, pas qu'en psychologie, c'est-à-dire qu'on place notre seuil de tolérance au faux positif à 5%, ce qui veut dire que si on répétait notre expérience une centaine de fois, et bien sur 5 fois, on se planterait en disant qu'on dirait qu'il y a un effet alors qu'il n'y en a pas en fait. On revient. On était sur notre histoire de résultats positifs. Donc on a 9 expériences de précognition et 8 qui montrent des résultats positifs. Un exemple dans les résultats, c'est les participants arrivaient à correctement identifier la future position des images érotiques significativement plus fréquemment que le taux de chance de 50%. Alors là, les résultats de BEM, c'était que 53% des fois, les gens arrivaient à savoir de quel côté était l'image érotique et qui ne trouvaient pas de résultats significatifs quand il s'agissait des images neutres, des images positives ou négatives. Et pareil, sur cette autre expérience, ils trouvent aussi des résultats positifs. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est un article qui prétend avancer des données qui disent que les gens, de une, peuvent prédire l'avenir, et de deux, que les événements futurs influencent le passé. Donc, bon, c'est pareil. Pas mal de gens sont tout de suite précipités pour essayer de trouver un petit peu la faille, le problème, parce qu'on se dit, si c'est pour un truc soit aussi gros, il doit y avoir un truc qui doit vraiment être évident, on peut pas, il doit y avoir une raison méthodologique qui explique cela. Beaucoup de gens ont essayé de faire ça, et là je vous cite Tal Yarkoni, qui est un chercheur en neuroimagerie, en neurosciences aussi à Austin au Texas. Alors, les traductions sont de moi, c'est vraiment approximatif, si vous voyez méthode de l'améliorer, vous me le dites. Alors, nombre de critiques de l'article de BEM ont essayé de s'en débarrasser en cherchant la faille, l'erreur méthodologique qui invalide complètement le papier. Ayant lu le papier de près deux fois, je ne pense pas qu'il y ait une telle faille dans cet article de BEM. Et il continue, il dit « Si on oublie la nature polémique du sujet de recherche de BEM et qu'on évalue le papier sur des bases purement méthodologiques, je ne pense pas qu'il soit pire que le papier type qu'on trouve dans GPSP, donc c'est le journal où l'article a été publié. » Il dit « En fait, il est même probablement meilleur. » Donc, là, ça devient un peu plus, encore plus problématique, c'est-à-dire qu'on a un article qui, non seulement... avance des choses qui semblent complètement impossibles, mais qui est au niveau méthodologique de même niveau que ce qu'on trouve dans le même journal, on va dire, ou même en psychologie en général. Alors, il y a eu plusieurs types de réactions. Je vais vous décrire la réaction du point de vue des sceptiques. Et là, je vous cite Steven Novella, qui est un sceptique américain et qui est sur le podcast de Skeptic's Guide to the Universe, et qui avait un blog sur l'article de BEM quand c'est sorti, où grosso modo, ce qu'il disait, en fait, pour tout résultat qu'on trouve, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les études soient rigoureuses et qu'elles minimisent les sources de biais, on veut des résultats qui soient significatifs. On veut des tailles d'effet conséquentes. La taille d'effet, c'est l'idée que la différence entre la chance, ici c'était 50%, et l'effet mesuré, dans le cas c'était 53%, on veut des effets qui soient de taille conséquente. Alors je pense que pas mal de sceptiques diront que 50, on est encore loin d'un truc vraiment significatif, vraiment conséquent, quand on parle vraiment de la capacité de lire dans la capacité de prédire l'avenir. Ce qu'on veut, c'est un niveau de preuve proportionné à la plausibilité du phénomène. Là, le gros problème, c'est que différentes personnes vont placer ce curseur de plausibilité à différents niveaux. Et ce qu'on veut aussi, surtout, c'est des réplications indépendantes. Parce que l'article de BEM avait, dans le même article, il avait fait des réplications de ses propres expériences pour dire, vous voyez, je l'obtiens une fois et j'arrive à l'obtenir une deuxième fois. Et pas mal de gens vous disent que, en fait, ce qu'on veut, c'est que les réplications soient faites par une équipe complètement indépendante pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais. Et donc, c'est ce que des sceptiques ont fait. On a Stuart Ritchie, Richard Wiseman et Christopher French, qui sont les deux derniers étant des chercheurs en parapsychologie, mais plutôt côté sceptique. Ont repris trois des expériences de BEM, ont essayé de les répliquer et n'y sont pas arrivés. Et donc, ils ont publié leurs résultats. En disant,
ouais. Depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Tu as dit qu'il y a eu 9 expériences dans
ouais.
celle de BEM.
Oui.
Donc, ça veut dire 9 sujets seulement.
Non, pardon. Il avait. Aussi, non, pardon, excuse-moi. Il avait entre des échantillons. C'est ça aussi, c'est quand tu regardes la taille des échantillons, le nombre de participants qu'il y avait dans ces expériences, c'est un nombre de participants relativement conséquent. Donc, on allait d'une centaine de participants à plus de 200 participants dans certains trucs. Ce qui, pour une expérience de psychologie, c'est que on commence, par rapport à ce qui se fait d'habitude, en tout cas dans les années 2010, on est au-dessus, de la taille d'échantillon classique.
Et le truc qui me perturbait, c'est, il a dit, les gens peuvent prédire l'avenir juste parce qu'ils ont réussi à prédire où était l'image érotique, mais pas les trois autres types d'images.
Ouais, ça c'était, c'était une des critiques qui a été faite, c'était que, je rentre pas dans les détails, on pourra y revenir ensuite, mais c'est effectivement pas mal de gens qui ont dit que il y avait un problème au niveau de son analyse des statistiques, mais il avait une explication pour dire pourquoi les images érotiques, en se rabattant sur plus ou moins de la psychologie évolutionniste, en disant que vu que c'est érotique, il y a un avantage adaptatif à savoir où est-ce que des potentiels partenaires sexuels pourraient se cacher. Alors, on ne va pas rentrer sur la justification, c'est une autre histoire, mais qui est intéressante en soi, mais là on va pas se lancer là-dedans parce que sinon on va pas en finir. Bon, ça c'est la réaction des sceptiques qui, une fois que la réplication avait échoué, il y a eu d'autres étapes ensuite dont je vais pas vous parler parce que pareil on pourrait être là trop longtemps. Je vais maintenant vous penser sur la réaction dans le champ chez les psychologues, et en général c'était plutôt du genre oh shit. J'en ai discuté avec plusieurs gens, plusieurs personnes, plusieurs chercheurs qui vraiment disaient avoir eu littéralement cette réaction là, et même des gens qui étaient mal à l'aise en lisant l'article parce qu'ils s'apercevaient que un article dans un journal très renommé qui utilise les méthodes que tout le monde utilise arrive à montrer quelque chose qui est complètement impossible à leurs yeux. Donc il y a un petit peu un moment où ils disent, mais s'il arrive à démontrer ça sur un truc complètement impossible, qu'est-ce que ça veut dire, ou qu'est-ce que ça dit des résultats, des autres résultats qu'il y a dans le même journal ou en psychologie en général qui utilisent les mêmes méthodes. Pareil, je reviens sur ce que l'interprétation de Tal, c'est la vraie question qui est dans l'esprit des gens est qu'est-ce qui a bien pu se passer. S'il est bien évident qu'un phénomène tel que la perception extrasensorielle n'existe pas, là c'est important de voir que c'est vraiment cet a priori qu'ils prennent tout de suite de dire c'est pas possible, donc il y a dû y avoir quelque chose d'autre. Comment donc est-ce qu'un éminent chercheur en psychologie sociale a pu publier un article contenant autant de données en faveur de la perception extrasensorielle dans un des meilleurs journaux de psychologie sociale, et ceci après avoir été évalué par 4 autres psychologues. C'est-à-dire que, comme dans toute revue scientifique, l'article est évalué par d'autres chercheurs qui disent « oui, bon, c'est bon au niveau méthodologique, je vois pas de problème », qui disent à l'éditeur « vous pouvez publier ». Et Tal qui conclut, ou pour dire de manière plus prosaïque, what the fuck. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu, ça va être difficile de vous faire ressentir à quel point ça a été une grosse claque pour pas mal de gens. Donc ça a été pour pas mal de gens, ça a été un peu une grosse claque, surtout vu le contexte que j'avais décrit avant. Et c'était vraiment cette idée que si en utilisant les meilleures méthodes ou les méthodes standards qu'on utilise de nos jours, on arrive à publier des trucs qui sont impossibles, qu'est-ce que ça dit de nos autres résultats? Et donc, suite à ça, on a eu un petit peu une espèce de crise. Ou en tout cas, on est rentré dans une phase où les gens ont commencé à se questionner et à essayer d'évaluer un petit peu leurs propres résultats. Pareil, je dis les gens... C'est pas l'ensemble du champ des psychologues scientifiques, mais il y a eu pas mal d'études qui ont commencé pour essayer de s'auto-évaluer, on va dire. Et c'est assez. Quand on regarde la littérature scientifique, on voit qu'il y a une augmentation de ce sujet d'une crise de la réplication, une crise de la reproductibilité dans la littérature. Là, je vous parle que de la psychologie, mais c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres domaines scientifiques. Mais là, je préfère me concentrer que là-dessus. Et on voit que vraiment au début des années 2010 qu'on a quelque chose qui commence à se passer et que les gens commencent à se poser des questions. Alors, ce que les psychologues ont fait, en fait, c'est qu'ils ont commencé à prendre certaines études qui avaient déjà été menées, ou alors des effets, soit des effets bien connus de la littérature, ou alors quelque chose qui les intéressait en particulier, et ils ont commencé à mener ce qu'on appelle des études multicentriques, c'est-à-dire qu'ils ont établi un protocole qui cherchait à faire une réplication de cette expérience-là, et ils ont distribué le même protocole à 10, 20, 30, 40 laboratoires qui ont recruté des participants et qui ont essayé de faire une réplication de cette expérience. Et ça a amené à toute une série de projets qu'on a appelé les Many Labs Projects. Donc on en a... Le premier qui est sorti donc en 2014, je vous fais du à la va-vite parce que j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais on a 10 des 13, ils ont pris 13 études de la littérature et il y en a 10 sur les 13 qui ont été répliquées. Ça a impliqué 36 labos et 6400 participants. Donc là, on est sur des échantillons de taille très conséquente. Donc on commence on a moins de chances de se tromper. Pareil, le Manila Project 3 qui sort avant le 2 parce que c'est un peu comme Star Wars et qu'on ne sait jamais dans quel sens ça va. Là, par contre, on n'a que 3 effets sur 10 qui sont répliqués. Et le Manila Project 2, on en a pareil, la moitié qui sont répliqués. Et pareil, avec un nombre de labos conséquent, des échantillons qui sont de taille très importante. Mais par contre, le problème qu'il y avait ici, c'est que c'était pas une approche qui échantillonnait de manière aléatoire les expériences. C'est-à-dire que des gens disaient, il y a une expérience importante, là on voudrait savoir si on peut la répliquer ou pas. C'était vraiment toujours plus piloté par les gens qui mettaient au point ces expériences. C'est pour ça qu'il y a eu un autre projet qui a été fait. Donc qui s'appelait le Reproducibility Project Psychology, qui avait une approche un peu différente. En fait, ils ont pris 4 journaux scientifiques et ils ont commencé à prendre un article après l'autre et à savoir s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour faire une réplication de cet article-là. Donc il y a une espèce une tentative d'avoir un échantillonnage de la littérature en psychologie un peu plus représentatif que justement seules quelques expériences par-ci par-là. Et donc ils en sont arrivés à prendre 97 études et il n'y en a que seulement 37 qui ont été répliquées. J'imagine que vous n'avez pas arrivé à vous montrer ici. Et ce qu'il faut voir, donc ça en bas, c'est l'effet qui avait été mesuré dans l'étude qui avait été publiée la première fois, et ça c'était la taille de l'effet qui avait été mesuré dans la réplication. En vert, c'est tous les résultats qui étaient significatifs, en rouge c'est tout ce qui était non significatif. Les deux choses importantes à voir, c'est qu'on a beaucoup plus de rouge que de vert, parce qu'on a beaucoup plus de résultats qui sont non significatifs. Et le deuxième résultat à voir, c'est que cette ligne-là vous montre les résultats qui sont où on a trouvé le même effet en taille, on va dire, dans l'étude originelle et dans sa réplication. Et ce qu'on voit ici aussi, c'est que la plupart du temps, on trouve des effets qui sont beaucoup plus petits que ce qui existait dans la réplication que dans l'étude originelle. Tout ça c'est un petit peu abstrait, donc je vais vous donner au moins un exemple d'une étude classique, pas d'une étude classique, d'une étude qui n'a pas été répliquée, dont les résultats n'ont pas été répliqués. Et je prends cette étude-là parce qu'en fait, c'est une étude qui est souvent présenté même dans les manuels de psychologie. Donc c'est pour vous dire l'étendue du problème, c'est-à-dire que des expériences qui étaient tellement qu'on pensait être tellement solides qu'elles étaient arrivées à faire partie du corpus de connaissances qu'on enseigne aux psychologues, même certaines de ces expériences-là, on n'est pas arrivé à les répliquer. Cette expérience en question-là est basée sur le fait que alors l'idée c'est que je caricature parce qu'il faut aller vite, mais que si vous souriez, en tout cas je vais plutôt vous décrire l'expérience, ce sera plus simple. On demandait aux gens de sourire Et après, ensuite, on leur présentait une BD ou un truc comique, et on leur demandait d'évaluer à quel point est-ce qu'ils trouvaient ça drôle. Et après, on faisait la même expérience alors que les gens ne souriaient pas, et on s'apercevait que les résultats avaient montré que le fait de sourire, apparemment, ça nous rendait plus heureux, plus joyeux, et que ça, et que on évaluait la BD ou le truc qu'on était en train de lire comme étant plus drôle. Le problème, c'est que forcément, si on demande aux gens de sourire, on peut se dire, ils vont se dire, ah, apparemment, on me demande quelque chose qui est censé me rendre joyeux. Donc, ils ont essayé de trouver une manière de forcer les gens à sourire sans leur demander de sourire. Et donc, c'est pour ça qu'on leur demandait de tenir un stylo soit avec les dents, soit avec les lèvres, ce qui vous force à faire comme si vous souriez ou pas. Et donc, c'est une expérience qui a été, où ils ont pris 17, il y a eu 17 laboratoires qui se sont mis ensemble pour essayer de répliquer les résultats. Alors, la façon de lire ce graphe-ci, si j'arrive à retrouver ça, ça, c'est le résultat originel, la moyenne du résultat et la variabilité autour du résultat. Et ça, c'est chacun des laboratoires qui a essayé de répliquer le résultat. Et ça, c'est la moyenne quand on prend tous les laboratoires ensemble. Et cette ligne-là, c'est la ligne de zéro, la ligne de pas d'effet, en fait. Donc, on a un effet originel qui est bien loin de zéro, mais on s'aperçoit que tous les résultats mis ensemble des laboratoires sont, de tous les effets en laboratoire, on est à zéro. En fait, donc, on n'a pas d'effet, donc on n'est pas arrivé à répliquer l'effet. Et là, on est sur, je pense, à peu près pareil, 2000 participants, donc pareil, un nombre assez conséquent. Ok, bon, pour récapituler, pour vous donner une idée du bilan de tout ça, on peut dire que, en général, 50% des effets des études ne peuvent pas être répliqués. Il y a une certaine variabilité en fonction des sous-disciplines. Si vous êtes en psychologie sociale, en psychologie cognitive, c'est pas forcément les mêmes valeurs. Et aussi que les effets qu'on trouve quand on cherche à répliquer une étude sont beaucoup plus petits que ce qu'on avait à l'origine. Et tout ça a pas mal amené à un petit peu continuer d'enfoncer le clou, on va dire, d'une perte de confiance des psychologues dans leur méthode de travail, les résultats qui existaient déjà, et aussi donc du coup une espèce de prise de conscience qu'il faut changer la façon dont on travaille. Ok. Je vais voir parce que sinon je vais me déshydrater. Ok, je vais vous parler un petit peu des causes du problème. À la fin, je reviendrai aussi sur comment est-ce que tout ça est en lien avec l'expérience de Daryl Bem. Pour illustrer un petit peu les différentes causes, je vais vous prendre un petit peu cette image d'épinal qu'on a de la recherche scientifique où... Il faut encore que je me casse le cou. Donc, on génère une hypothèse et que grâce à ça, avec cette hypothèse en tête, on met au point une étude, on collecte des données, on analyse les données et on teste une hypothèse, on fait une interprétation, soit on publie, soit on met au point une nouvelle expérience et on continue. Alors, premier problème, ben en fait, jusqu'à présent, on faisait très peu de réplications en psychologie. C'est-à-dire qu'on publiait une étude et que personne derrière allait essayer de faire exactement la même chose. Et personne, et en général, on n'allait pas prendre l'étude de quelqu'un d'autre pour essayer de faire, de confirmer ou d'infirmer leurs résultats. Dans la littérature, c'est entre 1% et 1 pour 1000 des résultats, des études qui sont des réplications. D'ailleurs, ça a été un peu le problème que Richie Wiseman et French ont eu quand ils ont essayé de publier leur réplication de l'étude de Daryl Bem. Parce que quand ils l'ont d'abord envoyé au même journal qui avait publié l'étude de Daryl Bem, les éditeurs l'ont simplement dit « Ce journal ne publie pas de réplication, qu'elle soit positive ou négative. » C'est un peu juste, c'est notre politique, c'est comme ça qu'on... Voilà. Alors après, ils ont essayé d'envoyer un deuxième journal qui l'a envoyé à des gens pour l'évaluer, mais ça a été rejeté. Après, ils ont su qu'en fait, c'est parce qu'un des personnes qui l'avait évalué était Daryl Bem lui-même. Donc on a un petit peu peut-être des conflits d'intérêts. Ça arrive, même quand c'est pas de la parapsychologie, quand on essaie de publier une réplication, on l'envoie à l'auteur d'origine et ça peut causer des problèmes. C'est pour ça qu'en général, on vous conseille, si vous allez faire une réplication, essayez d'être d'abord consulter les gens qui ont fait l'étude originelle et de vous entendre avec eux, parce que sinon, après, ça peut poser des problèmes. En fait, quand je vous dis qu'il y a trop peu de réplications, je suis pas assez précis. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop peu de réplications dites directes. Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de répliquer une étude. Il ne faut pas se dire c'est une réplication, ce n'est pas une réplication. En fait, il faut plus les voir comme étant un continuum entre quelque chose qui est une réplication directe où tous les paramètres sont les mêmes. Donc, on est ici dans une réplication, une réplication directe ou une réplication exacte, comme vraiment tout est absolument pareil. Et après, il y a cet autre truc qu'on appelle une réplication conceptuelle. Alors, ça c'est un truc assez typique en psychologie, c'est l'idée que vous cherchez à tester l'idée plutôt que le détail. C'est-à-dire que si je vous dis, si on cherchait à faire une réplication de l'expérience de Bem, on pourrait dire, on va reprendre exactement le même protocole, mais on ne va pas forcément prendre les mêmes images érotiques. On va prendre d'autres images érotiques. Ça, on serait encore dans un domaine où on est proche de la même idée. Par contre, à partir du moment où on commence à s'éloigner, où on n'est plus sur des images, mais on est sur quelque chose d'un film, ou on est sur un dessin animé, ou alors sur si on change complètement la nature et que la nature du stimulus et qu'on part sur des images qui sont complètement neutres, qui ne sont pas du tout érotiques, là, on n'est plus du tout sur une réplication directe. On part dans le champ de la réplication conceptuelle. Et ça c'est quelque chose qui se fait très souvent en psychologie, parce que l'idée, en fait, c'est qu'on veut savoir à partir du moment où est-ce que l'effet qu'on est en train d'étudier change, c'est-à-dire qu'on veut savoir est-ce que à ce moment-là on arrive toujours à avoir cet effet dans toutes ces conditions-là, ou est-ce qu'on ne l'a plus avec certaines autres conditions. Alors le problème des réplications conceptuelles, c'est un peu un jeu de pile je gagne, face tu perds. Parce que si vous avez fait une étude et quelqu'un cherche à faire une réplication, s'il fait une réplication conceptuelle et qu'il trouve la même chose, vous êtes super, mon étude a été confirmée. Par contre, s'il fait une réplication conceptuelle et que ça ne marche pas, vous pouvez toujours dire « Ah oui, mais c'est parce que vous avez changé des choses. » Et donc, votre résultat originel, lui, est complètement protégé de toute, on va dire, falsification, parce que les gens n'ont pas fait une réplication directe. Bon, voilà. Ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi en parapsychologie, où on va changer un petit quelque chose et que on n'arrive plus à trouver l'effet, et que on trouve l'effet mais avec une autre condition, mais plus celle d'origine. Donc c'est quelque chose qui se retrouve aussi en parapsychologie. Bon, alors, donc trop peu de réplications. Ensuite, on a un problème, ce qu'on appelle un biais de publication. Alors ça, c'est l'idée qu'on favorise les résultats positifs. Les journaux sont beaucoup plus intéressés par un résultat positif qu'un résultat négatif. Et ça, c'est vrai, on va dire, dans à peu près toutes les sciences. Mais c'est vraiment pire en psychologie, en fait. C'est une étude qui avait été faite, je ne sais plus en quelle année, désolé, je ne me rappelle pas, qui montre en fait la quantité de papier ou de publication où le résultat supporte l'hypothèse qui avait été avancée par les chercheurs, c'est-à-dire des résultats positifs. Donc ça, c'est la proportion de résultats positifs. Tout en haut, vous avez donc Space Science. Donc, le truc qui permet d'envoyer des gens dans l'espace et de faire atterrir des vaisseaux spatiaux sur des comètes. Un truc relativement solide. Hein. Et eux, ils sont à 60-70%. Bon, Ok, mais quand vous regardez qu'est-ce qu'il y a tout en bas de cette échelle et qui, à chaque fois, 90% du temps, quand des psychologues ou des psychiatres émettent une hypothèse, eh bien, ils arrivent à trouver des résultats qui soutiennent cette hypothèse. Donc, on a quand même un petit problème où les sciences dures trouvent moins souvent des résultats positifs que les sciences, entre guillemets, molles. Encore une fois, je fais à la va-vite parce que la distinction sciences dures, sciences molles est souvent un petit peu compliquée et problématique en elle-même. Et en fait, après, quand vous regardez, quand vous demandez aux gens dans quelle mesure est-ce qu'ils ont tendance à ne pas publier des résultats qui sont négatifs, ben, y a des gens qui sont allés demander à des psychologues. Et en fait, on s'aperçoit que il y a au minimum, on est dans combien? On est dans 67% là. Non, 67% c'est celui du milieu. Bref, on est dans du. Allez, on va dire 67% de chercheurs qui disent que effectivement, quand on aura des résultats négatifs, ils ne rapportent pas. Ou alors, enfin non, ça c'est l'inverse. Ils ne publient ou ils ne parlent que des études qui ont marché. Ok. Donc, ah oui, le 92%, ça renvoie au premier graphe dont j'avais parlé, et pas au deuxième. Alors après, un autre problème, c'est qu'on a des échantillons trop petits. Alors ça, pour essayer de vous faire sentir pourquoi c'est un problème, disons que on joue à pile ou face, et que on joue à pile ou face 1000 fois. On n'a vraiment rien à faire de notre journée, on fait ça, et ça tombe sur pile 900 fois. Là, vous allez vous dire, bon, il y a peut-être un problème avec la pièce qu'on utilise, elle n'est peut-être pas très bien équilibrée, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, si on refait ça, mais 100 fois, et que ce coup-ci, on a 90 fois pile, vous allez quand même on peut continuer à se dire, bon, il y a un problème. Par contre, si on avait fait l'expérience que 10 fois, et que vous obtenez ça, vous obtenez 9 fois pile et seulement une fois face. Et bien, ce qui se passe, c'est que ce résultat, en fait, n'est pas si improbable que ça. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à dire qu'on est très mauvais quand on a des petits échantillons pour estimer la probabilité que de ce genre d'événement. Et donc, ça se retrouve aussi en recherche, où quand on a des petits échantillons et qu'on a quelque chose qui nous semble anormal, ou qui va, surtout dans la mesure où ça soutient notre hypothèse, on a tendance à se dire, ah ben c'est bon, on avait suffisamment de participants pour trouver l'effet qui nous intéressait. Alors, il y a des échantillons trop petits. Alors, ça, c'est lié en statistique à ce qu'on appelle le concept de puissance statistique. Alors, je vais juste vous faire une petite citation pour essayer de vous expliquer ce que c'est. Donc, pour chercher à montrer qu'un effet existe, il faut mettre au point une expérience qui a de bonnes chances de le détecter. C'est du bon sens, c'est du simple bon sens. Et en termes statistiques, on dit qu'une expérience doit avoir une puissance statistique suffisante. Et en fait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent dans la puissance statistique, mais un d'entre eux, c'est d'avoir un échantillon de taille suffisamment large. Il faut avoir beaucoup de participants, et dans ces cas-là, vous aurez la chance, vous avez plus de chances de trouver l'effet qui vous intéresse. Donc, si vous avez un échantillon trop petit, vous allez aussi passer à côté de trucs. C'est ça le problème. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, on va se dire, oh, il y a quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a rien. Mais aussi, s'il y a vraiment quelque chose, on a aussi plus de chances de le rater, en fait. Alors ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau. Comme je vous disais, c'est un de ces trucs que depuis les années 60, on nous le rabâche. Et ça ne change pas. Ça ne change absolument pas. C'est assez déprimant. Peut-être que maintenant, on espère que ça va commencer à changer, un de ces quatre. Voilà, donc faible puissance statistique. C'est-à-dire qu'on a un effet de taille moyenne. Ça paraît, je ne vais pas rentrer dans les définitions, mais en général, ce qui a été trouvé, c'est qu'on n'a que 50% de chances de le trouver. Ok. Alors là, par contre, on arrive à la partie qui va être la plus liée à l'article de BEM et donc, qui a créé beaucoup de débats dans le domaine de recherche scientifique. C'est ce qu'on appelle les pratiques de recherche qui sont critiquables. Alors ça, c'est ma traduction en français. J'ai aucune idée de si c'est la bonne, parce qu'en anglais, c'est Questionable Research Practices. Et c'est souvent, c'est abrégé par QRP. Alors en fait, elles sont pas forcément, c'est pas forcément un problème en soi. Toutes ces pratiques dont je vais vous parler, en fait, souvent on dit qu'elles habitent un petit peu dans la zone d'ombre entre ce qui est purement de la fraude scientifique d'un côté. Donc ça, si vous avez les différents niveaux de l'enfer, la fraude scientifique, ça serait tout en bas. Tout ce qui est purgatoire et paradis, vous êtes au-dessus. Moi je n'appelle ça pas le paradis, mais j'ai tendance à dire c'est un petit peu la contrée où la recherche est faite par des licornes et elle est publiée sur des arcs-en-ciel, mais ça c'est ma version à moi. Et après il y a différents niveaux d'horreur dans ces pratiques de recherche critiquables. Et pour vous illustrer à quoi ça peut ressembler, je vais vous prendre une citation d'un article de Daryl Bem, qui a écrit un article sur comment écrire un article, comment analyser ces données. C'est un petit peu long, alors excusez-moi, mais je l'ai pris parce que c'est assez, je trouve ça très illustre, ça illustre très bien ce dont on parle. En fait, pour situer la citation, il parle du fait que souvent on se retrouve un petit peu dans la recherche en psychologie, souvent c'est les participants sont face à l'ordinateur et on n'observe pas directement leur comportement, donc on n'a plus que les données, on est un petit peu éloigné du participant, donc pour compenser il faut qu'on se familiarise vraiment avec les données. Donc examiner les données sous tous les angles, si une partie des données suggère une nouvelle hypothèse, essayez de trouver de nouveaux arguments en sa faveur. Si vous voyez des traces d'un phénomène intéressant, essayez de réorganiser les données pour mieux les faire ressortir. S'il y a des participants, des essais ou un expérimentateur qui vous donne des résultats anormaux, mettez-les de côté, temporairement. Partez à la pêche pour trouver quelque chose, n'importe quoi d'intéressant. Et il dit, non, ce n'est pas immoral. Les règles de l'inférence scientifique et statistique que l'on surapprend à l'université s'appliquent au contexte de la justification. Mais dans le contexte de la découverte, il n'y a pas de règles formelles, seulement des heuristiques et des stratégies. Comment est-ce que l'on découvre un phénomène? Dans le contexte restreint d'une étude empirique, il n'y a qu'une seule stratégie qui mène à la découverte, explorer les données. Alors en fait, ça paraît un petit peu choquant, mais il fait une distinction qui est importante. Il fait vraiment une distinction entre ce contexte de découverte et ce contexte de justification. Alors, c'est plus souvent exprimé, en tout cas moi je vais le réexprimer sous d'autres termes, qui est recherche confirmatoire, recherche exploratoire. Mais c'est un peu la même idée. Et tout ce que je vous ai dit à propos des tests statistiques dont je vous parlais au début, on est vraiment dans l'idée de la recherche confirmatoire. On a une hypothèse et on essaye de la confirmer ou de l'invalider. Et donc, dans ce contexte-là, les résultats qu'on a dépendent des données qu'on a, mais pas seulement de ça, ils dépendent aussi de l'analyse qu'on a fait de ces données. Et qu'il faut faire des choix sur la façon dont on va analyser nos données. C'est pas un problème que de faire ça. Et souvent, il faut préparer les données pour arriver jusqu'au résultat. Et souvent, vous entendrez parler certains scientifiques de il faut masser les données. C'est en anglais, c'est du massage de data, parce qu'il faut il faut faire un pré-traitement. Il y a plein de choses à faire, et donc on parle de masser les données. En recherche exploratoire, ce que décrivait Bem, c'est que on prend nos données, on fait une analyse, on regarde les résultats que ça nous donne, et ensuite, en fonction de ces résultats, on change notre analyse pour essayer de trouver quelque chose. En soi, c'est pas un problème de faire ça tant qu'on le dit. C'est là où ça devient problématique. Tant qu'on le dit, c'est pas un problème de faire ça, mais c'est un moment où vous dites que vous faites croire que vous avez fait une recherche de type confirmatoire, alors qu'en fait c'était pas du tout le cas. Donc, ce qu'on entend aussi dire quand on fait de la recherche vraiment exploratoire, c'est que on en arrive à torturer les données. Et après, il y a une citation très connue d'un prix Nobel d'économie qui dit si vous torturez les données pendant suffisamment longtemps, elles arriveront à vous avouer n'importe quoi. Donc c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement on peut en arriver à trouver un petit peu tout et n'importe quoi si on cherche suffisamment longtemps. Et c'est pour ça que généralement l'idée c'est que on a un lot de données, on explore, on essaie de trouver des choses et après on fait une nouvelle étude pour essayer de confirmer ce qu'on a trouvé dans notre première pendant notre exploration. Et ce que je vous disais, c'est qu'en fait, il y a une espèce de continuum entre la recherche exploratoire et la recherche confirmatoire, et que si vous faites de la recherche purement confirmatoire, les statistiques dont je vous parlais auront un sens, tandis que si vous les utilisez dans un contexte exploratoire, en fait, on ne sait plus trop ce qu'elles veulent dire. Elles perdent beaucoup de leur sens, en fait. Ok. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces pratiques de recherche qui sont problématiques. La plus simple, la plus évidente et la plus, on va dire, frontale, c'est harking. Donc, hypothesizing after the results are known. C'est émettre une hypothèse après que les résultats aient été connus. L'idée, c'est que vous explorez, vous trouvez un résultat, vous explorez vos données et vous trouvez un truc intéressant. Et dans l'article, vous dites que vous aviez cette idée dès le début. En fait. Vous ne dites jamais ce que vous avez fait, vous dites simplement « Ah, ben j'avais cette idée-là et j'ai réalisé mes données de telle manière et c'est ce que j'ai trouvé. » Et là, Daryl Benn, dans le même article, dit quel article devez-vous écrire. Il a deux possibilités. L'article que vous aviez prévu d'écrire quand vous avez mis au point votre étude, l'article qu'il est plus censé d'écrire une fois que vous avez vu les résultats. Ces deux articles sont rarement similaires et la bonne réponse est B. Donc il est clairement en train de vous dire que c'est totalement acceptable de ne parler que de l'hypothèse que vous avez fini par avoir et de prétendre que vous l'aviez depuis le début. Et pareil, si on regarde le nombre de chercheurs qui avouent avoir fait ça, on est dans du 50 à 90% en fonction de comment on pose la question. Ce qui est intéressant aussi, j'ai oublié de vous mentionner sur ce graphe, c'est que la réponse la plus basse, c'est ce que les gens disent faire eux-mêmes, et la réponse suivante, c'est ce qu'ils disent que les autres font. Donc c'est toujours très drôle ça, de dire non moi je fais de la bonne recherche, bon j'avoue des fois il m'arrive de faire ça, mais je le fais pas autant que les autres. Harking, donc c'est le fait qu'on va complètement court-circuiter, on va générer notre hypothèse à partir des données qu'on a regardées et prétendre qu'on avait cette idée depuis le début. On en arrive à la question de p-hacking. Ça, c'est un terme que vous allez retrouver, qu'on retrouve aussi assez fréquent. Et le p dans p-hacking, c'est le p des valeurs de p dont on parlait au début, en fait. Et ça, c'est tout un ensemble de différentes stratégies qu'on peut adopter en tant que chercheur pour essayer de faire diminuer notre valeur de p pour qu'elle arrive en dessous de ce seuil de 5%, en fait. Alors, il y a il y a ce qu'on appelle optional stopping. Donc, c'est l'idée que si la valeur de P ou le résultat que vous avez n'est pas celui qui vous intéresse, vous allez recruter plus de participants pour continuer à faire votre expérience. Et à chaque nouveau participant ou à chaque tous les 10 participants, vous refaites l'analyse pour voir où si le résultat passe en dessous de la barre des 5%. Et dès que ça passe en dessous des 5%, hop, vous arrêtez. Et ça, c'est un truc qui, pareil, où les chances que vous ayez des résultats, des faux positifs, commencent à largement monter, en fait. Et pareil, si on regarde l'article de BEM, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un nombre de participants qui est assez important, mais qui augmente de 50 en 50, et qui n'est pas du tout cohérent entre une étude à l'autre, en fait. Donc on a quand même de grosses suspicions qu'il y avait, que c'était genre ce qui se passait. Alors, une autre façon, c'est que vous pouvez exclure de manière arbitraire certains participants. C'est ce que disait BEM, on peut exclure un participant, exclure certains essais, ou alors carrément si un des expérimentateurs qui faisait votre expérience vous semble donner des résultats normaux, vous décidez de l'exclure complètement. Et ça pareil, c'est une façon très facile, pas très facile, mais c'est une façon qui vous permet de passer en dessous de la barre des 5%. Et pareil, aussi ce qui... ce qui peut se faire, c'est qu'on ne parle que certaines des... quand on écrit notre article, on avait tout un tas de variables, de trucs qu'on a mesurés, et en fait, on ne parle que de celles qui a donné un résultat significatif. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe assez fréquemment aussi. On mesure 10 choses, et il n'y en a qu'une seule qui est significative, et on ne parle que de celle-là à la fin. Ce qui s'est passé à peu près en... un autre article qui est sorti en 2011, et qui a aussi été un peu la cause de tout ça, c'est que on a eu un résultat qui s'appelle False... Maintenant, on l'appelle juste simplement False Positive Psychology, donc la psychologie des faux positifs. Mais c'est aussi un jeu de mots parce qu'il y a aussi la psychologie positive. Donc, il y a des titres comme ça, c'est juste des purs bijoux. Qui était une étude, c'était seulement des simulations, mais qui montrait à quel point est-ce que quand on utilise ces pratiques qui sont critiquables, à quel point est-ce qu'on peut arriver à des résultats qui sont complètement aberrants, en fait. Et une des études qu'ils avaient soi-disant faites, c'était que on faisait écouter de la musique ou une chanson qui parlait de vieillesse, ou dont le thème principal était la vieillesse, et que une fois que les gens les avaient écoutés, ben en fait ils étaient, c'est pas que non seulement ils se sentaient plus jeunes, mais c'est qu'ils étaient effectivement plus jeunes, qu'ils avaient rajeuni en écoutant la chanson. Ils arrivent à montrer ces résultats juste en faisant des simulations et en disant bon ben là on dit qu'on va éliminer tel participant. Bref, je vous passe les détails, mais et ce que l'article montrait aussi, c'est que quand on combine toutes ces différentes méthodes pour faire du p-hacking, on peut arriver à un taux de faux positif qui est plus proche de 60% qu'au lieu des 5% qu'on voulait à la base, quoi. Ce qui veut dire que 60 fois sur 100, on va avoir un résultat qu'on pense être, on pense qu'il y a un effet alors qu'en fait il n'y a rien. Donc là j'ai fait un peu le tour des différents problèmes. Et donc bon, pour plus ou moins conclure cette section-là, je reviens un petit peu, Tyler Aconi qui redit un petit peu ce que je vous expliquais, qu'il est important de noter qu'aucun des problèmes pris en un n'est vraiment terrible. Mais quand on a lu data picking, c'est l'idée que vous allez adapter votre analyse en fonction des résultats que vous avez. Des seuils statistiques peu conservateurs, parce que c'est un des autres problèmes de l'étude de BEM, la recombinaison de différentes études pour n'en faire plus qu'une, parce que là aussi il y avait probablement eu des choses qui s'étaient passées dans l'article de BEM qui étaient un petit peu louches, des hypothèses relativement flexibles et un tri sélectif des variables, c'est-à-dire le fait qu'il ne parle que de certaines variables et pas d'autres. Vous avez une recette parfaite pour produire des résultats fallacieux. Et le truc qui est quand même important de se rappeler, parce que quand on... Là, il critique BEM, mais rappelez-vous les stats qui disent à quel point ces trucs-là sont fréquents, il faut se rappeler que ce type de trucage n'est pas inhabituel. Bien au contraire, tout le monde fait ça. La réalité est que les chercheurs sont des humains et que, comme tous les humains, ils ont une profonde tendance à essayer de confirmer leurs croyances. Et je ne dis pas ça pour m'en prendre aux motivations de BEM. Je pense que c'est vrai de tout chercheur, moi y compris. Voilà. Je vais quand même vous parler de quelques-unes des solutions qui ont été avancées dans les 10 dernières années. Je vais pas m'étendre parce qu'il y a plein de trucs qui ont été suggérés. Je dis solution entre guillemets, il n'y a rien qui permet de résoudre le problème de manière absolue et finale. C'est des choses qui permettent d'améliorer la situation, mais qui sont pas parfaites. Un truc qui existe, qui a été créé et que je trouve génial, c'est ce qu'ils appellent le Psychological Science Accelerator. C'est juste cette idée de partager nos ressources et de travailler ensemble. Et c'est un peu l'idée qu'on retrouve dans certains champs en physique où il n'y a plus seulement un chercheur ou une équipe de chercheurs. On a des chercheurs sur la planète entière qui partagent leurs données et qui font la même expérience. Et donc c'est un réseau qui a été créé, qui inclut donc à peu près, je pense qu'on est à plus de 700 chercheurs quand même. On est à 600 laboratoires dans 72 pays différents. Et qui a tout un protocole sur on suggère une nouvelle étude, où on va faire une réplication, on évalue si ça vaut le coup. Et après on dispatche le même protocole dans tous les labos et tous les labos font la même chose et on met tous nos résultats ensemble. Ce qui est très intéressant aussi avec ça, c'est que, et dont je parle pas parce que c'est pas exactement le sujet, quoique, c'est que ce genre d'approche permet aussi de tester la même hypothèse dans différentes cultures. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a en psychologie, c'est que généralement, on se concentre sur des cultures occidentales, blanches, que la plupart des participants sont des étudiants à la fac, etc. Donc là, ça permet aussi au moins de diversifier beaucoup plus le type d'échantillon qu'on a. Et ensuite, un truc dont on a beaucoup parlé, ou dont on parle beaucoup et qui commence à prendre de plus en plus d'importance, c'est l'idée de pré-enregistrement, ou en anglais ils disent pre-registration. Alors ce que je vous disais, c'est que quand on analyse nos données, on a plusieurs choix à faire, et que à chaque choix, on a par exemple deux solutions à chaque fois, et qu'on peut dire bon, bah, je vais essayer ça, et ici. Ça marche pas, bon attends, je vais essayer plutôt ça, ça marche pas, j'essaie ici. On essaie tout un tas de possibilités d'analyser nos données, mais qu'en fait, à la fin, on va mettre dans la publication que celle-ci. Donc celle-là, c'est l'analyse qu'on a fait et c'est ce qu'il y a dans la publication. Comme je vous disais, ça c'est un problème, c'est que ça, les valeurs statistiques qu'on a quand on fait ça, on sait plus trop ce qu'elles veulent dire en fait. L'idée de la pré-registration ou du pré-enregistrement ou de l'enregistrement, en fait, c'est que avant d'analyser nos données, même avant de faire l'expérience, de commencer à faire l'acquisition des données, on dit ce qu'on va faire et on s'y tient. Ça semble absolument ça semble pas forcément révolutionnaire, mais pour pas mal de psychologues, c'est un peu ça. Et que donc on essaye de s'approcher le plus possible de ce qu'on a analysé, ce qu'on a dit qu'on a analysé et ce qu'on a mis dans la publication. Ce qui se passe, pour que je ne se peigne, parce que du coup, on n'a plus du coup, c'est plus du tout cette marge de manœuvre qu'on aimait bien avoir avant. Il y a pas mal de gens qui disent vous pouvez continuer à faire, à dévier de votre plan d'origine dans la mesure où vous êtes transparent et vous nous dites que effectivement, vous avez changé votre protocole et dans quelle mesure et pourquoi est-ce que vous l'avez changé. Alors le problème qu'il y a avec ça quand même, c'est que ça repose un petit peu sur l'honnêteté des gens et que les chercheurs sont des êtres humains et que des fois, ben, ça se passe pas exactement comme on veut. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a cette idée d'enregistrement du protocole est pas nouvelle. Elle existe en médecine depuis pas mal de temps et que quand on fait une étude clinique, on est obligé de mettre sur une base de données notre protocole. Et qu'il y a une équipe de chercheurs anglais, donc Ben Goldacre, qui sera, je pense, peut-être seulement trop vous connaîtront, est allé voir, ils ont commencé à les farfouiller pour voir, comparer ce qu'il y avait entre dans le protocole que les gens avaient mis en ligne et ce qui avait été dans l'article. Et ça, c'est le dernier résultat, c'est qu'ils avaient jusqu'à présent vérifié 67 études, qu'ils n'en ont trouvé que 9 qui étaient parfaites, c'est-à-dire où il y avait où ce qui avait été dit qu'ils allaient faire et ce qu'ils avaient fait étaient exactement les mêmes. Il y avait 354 outcomes, donc variables, qui avaient été mis dans le protocole à l'origine, qui n'ont jamais été mentionnés dans l'article à la fin. Et il y a aussi eu quasiment 360 variables ou résultats qui existaient dans les articles, mais qui n'avaient pas du tout été mentionnés dans les protocoles, où donc les gens ont commencé à faire de nouvelles analyses avec les données qu'ils avaient. Donc, cette idée d'enregistrer nos données, nos protocoles, c'est bien, mais c'est pas parfait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont essayé de proposer ce qu'ils appellent des registered reports. Alors, quand vous faites une étude scientifique, vous avez une idée, vous mettez au point une étude, vous collectez des données et vous écrivez votre article et ensuite vous l'envoyez à un journal qui va faire ce qu'on appelle le peer review, donc qui va faire une évaluation où d'autres scientifiques vont évaluer votre article. Et en fonction de leur rapport, vous pouvez publier ou pas. Le Register Report, c'est un petit peu différent. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir deux étapes de peer review. La première, en fait, va se faire avant même que vous commenciez à collecter des données. C'est-à-dire que ce que vous envoyez au journal, c'est votre intro et votre matériel et méthode qui disent ce qu'on va faire. Et là, vous avez un retour critique des reviewers qui vous disent soit ça leur va, et dans ce cas, vous pouvez commencer votre étude, ou alors ils vous disent, en fait, si vous faites ça, vous allez passer à côté de tel et tel problème. Non, je ne suis pas d'accord avec la mesure que vous avez utilisée ici. Et donc, quel gros avantage, en fait, de vous aider à améliorer votre étude avant même que vous ayez commencé à la faire. Et ensuite, une fois que ça c'était accepté, ce qui est super important pour ça en plus, c'est que une fois que l'article, que votre matériel et méthode, que votre introduction, que votre protocole a été accepté, ça veut dire que vous pouvez publier dans le journal à la fin. C'est-à-dire que même avant que vous ayez collecté les données, vous êtes quasiment assuré que vous allez publier votre article. Et ça, pour un scientifique, c'est un peu, on marche sur la tête, quoi, parce que c'est généralement, on est tellement habitué à devoir se battre avec des reviewers pour arriver à publier que une fois qu'on a nos données, que le faire de cette manière-là, c'est un peu révolutionnaire. Et donc, la seule condition pour vraiment publier à la fin, c'est que il y a une deuxième étape d'évaluation où on s'assure bien que ce que vous avez dit que vous avez fait, vous l'avez bien fait, et que vous êtes libre de rajouter d'autres résultats si vous en avez trouvé, mais il faut s'assurer que les trucs que vous avez dit que vous alliez faire, eh ben, ils y sont. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a toujours fait rire quand j'entends parler de ça, des gens qui parlent de ça comme étant un petit peu révolutionnaire, en fait, c'est quand on se penche sur les défis sceptiques qui ont été montés par le mouvement sceptique depuis que le mouvement sceptique existe, ressemble beaucoup à ça, en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un se pointe et vient vous dire « j'ai tel pouvoir plus ou moins paranormal » ou « j'arrive à guérir, j'arrive à trouver de l'eau avec ma baguette de sorcier », ce qui se passe souvent, c'est qu'on met au point un protocole avec eux avant, et qu'on est d'accord avant que quoi que ce soit se passe, et qu'une fois qu'on est d'accord sur le protocole, on fait l'étude, et que voilà, on n'y a pas, on va pas commencer à regarder nos données pour savoir si peut-être oui ou non. C'est un truc qui est fait complètement a priori en amont, et après on fait le test. Et un truc qui est aussi intéressant à savoir, c'est que pendant plus de 20 ans, le European Journal of Parapsychology avait aussi un format qui se rapprochait de ça, en fait. Donc c'est des trucs qui... Il y a cet aspect un petit peu historique, hein, du mouvement sceptique qui revient ici, où on a des trucs qui ressortent, hein, qui sont redécouverts par la science mainstream, mais qui en fait existaient déjà et qu'il avait déjà été mis en pratique à d'autres endroits, en fait. Alors je vais finir avec ce truc là parce que ça, je trouve ça génial, mais ça vous retourne le cerveau. C'est ce qu'on appelle des analyses en multivers. Je vous ai expliqué, ça c'est la façon dont on fait les choses de manière assez classique. On essaie plein de trucs, mais on en parle que d'une seule. Ici c'est la façon dont on enregistre, on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et après il y a l'autre possibilité, c'est, eh bien, en fait, il y a toutes ces différentes façons possibles d'analyser les données, et eh bien je vais toutes les faire. Donc, quand vous avez un gros lot de données et que vous avez beaucoup de façons d'analyser, ça peut vite devenir assez problématique. Il y a généralement deux approches qui sont faites pour faire ça. C'est qu'on a un même lot de données qu'on refile à plusieurs équipes, et chaque équipe l'analyse de manière indépendante, et que donc on a différentes analyses, donc une analyse par équipe, et donc ça nous donne une idée de la variabilité qui existe entre différentes la variabilité qui peut apparaître dans les résultats à cause de ces différentes analyses. Ça, j'ai participé récemment à un truc comme ça en neuroimagerie. Et il y a aussi l'idée que c'est une seule équipe qui, elle, va faire tout un tas d'analyses et qui montre tous les résultats. Cela, il y a une étude par exemple en neuroimagerie qui avait été faite, et il y avait à peu près entre 30 et 40 000 différentes façons d'analyser les données, et que la personne s'était amusée à faire un programme informatique qui allait tout faire tourner. Et il y a une étude récente aussi qui a fait pareil, mais avec des données plus comportementales, qui parlait en fait de l'effet des réseaux sociaux sur le bien-être chez les adolescents. Donc là, on touche aussi à des sujets qui sont on va dire, d'actualité puis important au niveau pour la société. Et ce que ça vous montre en fait ici, c'est que... Est-ce que mon curseur est... C'est que chaque... Là, on le voit presque pas, mais chaque point est une analyse différente du même lot de données. Et que la ligne du zéro, c'est un résultat qui n'est pas... qui est pas significatif. Enfin, pardon, tout ce qui est pas significatif, c'est en rouge. Et donc ça, je pense qu'il y avait à peu près... Il y avait une centaine de milliers de façons d'analyser les données, quelque chose comme ça. Et la personne s'est amusée, pareil, à faire tourner ça sur un gros programme informatique, sur un gros centre de calcul informatique pour avoir tous ces résultats, pour essayer de savoir quelle est la variabilité qu'on peut avoir dans les résultats, juste parce qu'on a tant de méthodes différentes d'analyse. On va essayer de conclure quand même, ça serait bien. Et on va essayer de conclure en... je vais donner un petit peu une idée de ce à quoi pourrait... ce que le futur nous réserve, peut-être. Parce que bon... Je vais faire ça en vous parlant d'un projet qui va bientôt commencer, a déjà commencé, je ne sais pas trop où ils en sont, qui s'appelle le Transparent Psy Project. Donc le Psy ici, ça renvoie au psy de parapsychologie. Le transparent, ça renvoie au fait que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a une absence de transparence, il y a un manque de transparence dans ce que les gens font et ce qu'ils disent qu'ils font. Il y a aussi un manque de transparence, j'en ai pas trop parlé, mais un manque de transparence au niveau des données. C'est-à-dire que beaucoup des données sont inaccessibles et qu'on ne peut pas facilement réanalyser les données des études précédentes. Et donc ce que ces gens ont décidé de faire, c'est pareil, de faire une étude multicentrique, récolter, avoir plein de labos qui se décident pour faire la même expérience, et qui dans ce cas-là est l'expérience de précognition de BEM, celle avec les deux rideaux et les images érotiques. Et ce qui est absolument génial, c'est que le protocole est en ligne, que vous pouvez lire, l'article est déjà écrit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore les résultats, mais l'article est déjà écrit avec juste différentes sections de l'article pour dire si on trouve les résultats on dira ça, si on ne trouve pas le résultat on dira ça. Que ça a été que le protocole a été établi, qu'ils ont pris des tenants de la parapsychologie et des sceptiques qui se sont mis d'accord sur le protocole à mener, et que l'aspect informatique est non seulement complètement automatisé, mais que à chaque fois qu'un participant termine sa participation à l'expérience, ces données sont directement mises en ligne, uploadées, et elles sont analysées en temps réel. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais effectivement, alors le projet n'a pas encore commencé, mais si vous allez voir l'onglet qui dit Main Confirmatory Analysis, vous aurez effectivement les résultats de l'expérience, et à chaque fois qu'il y a des nouvelles données qui vont atterrir, vous allez avoir les résultats qui vont être mis à jour. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'en plus, il y a très peu d'études, ne serait-ce qu'en psychologie, qui en sont à ce niveau de rigueur. Je ne vous ai pas parlé non plus du fait qu'il y a tout un système d'audit interne pour s'assurer de contrôle qualité de l'étude, et que, enfin, à ma connaissance, une connaissance absolue du domaine de la psychologie, mais c'est très rare qu'on ait cette façon de fonctionner là. Donc voilà, c'était pour vous dire que je vais conclure sur ça, et c'est juste parce que je trouve que c'est assez intéressant qu'on prenne justement d'exemples de la parapsychologie pour essayer de montrer comment est-ce qu'on peut faire de la meilleure recherche en psychologie aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention.